30 minut po polsku.
30 minut en polonais.
Chez Soon, qui va s'annoncer auprès de lui et qui lui raconte ce qui se passe. Ah, Soon, il se gonfle d'orgueil, il l'accompagne au ciel, il arrive au ciel, il se présente devant le Dieu du ciel, c'est tout juste s'il le salue. Si je comprends bien, dit le Dieu du ciel, c'est donc toi, Soon Wukong, avec tes lèvres pointues et tes poils tout partout, et tes yeux brillants. Oui, c'est moi, Soon Wukong. Et il ne s'incline même pas. Il ne donne aucun titre au Dieu du ciel. Tout le monde qui est autour est absolument horrifié. Le Dieu du ciel dit, ouais, mais il n'a pas encore connaissance de nos coutumes. Et il lui explique qu'il va lui donner une charge. Et cette charge, ce sera celle de chef des écuries. Il doit s'occuper des chevaux célestes. Alors, effectivement, il est assez content de ce qui lui arrive et il s'occupe bien des chevaux. Pendant un certain nombre de jours, les chevaux deviennent gras, il y a des juments qui font plein de petits poulains, tout va bien. Et là aussi, au ciel, il y a des festins. Alors, un jour de festin, qui se retrouve avec ses amis, il leur dit « Mais en fait, gardien des écuries, c'est quoi comme titre ?»« Comment c'est quoi comme titre ? C'est pas un titre, c'est une charge. » Non mais je veux dire, dans la hiérarchie céleste, ça se trouve où? Ça n'entre pas dans la hiérarchie céleste. Comment? Comment ose-t-on me faire ça? Me faire venir là m'occuper des chevaux du ciel, à moi, qui chez moi suis un roi, qui suis le père de tous mes sujets. Ah non, je ne supporterai pas ça. Et il s'en va. Il quitte le ciel. Et il revient chez lui. Il est toujours très bien accueilli. Et de nouveau commencent les exercices, les festins et tout ça. Voilà qu'un jour arrivent deux démons avec une corne. Et ces deux démons lui apportent un habit impérial jaune. Ça le flatte déjà beaucoup. Et puis ils lui disent, mais vraiment, vous êtes tellement puissant, vous devriez prendre le titre de grand saint céleste. Il ne se fait pas prier, ça lui plaît aussi beaucoup ça. Alors il se fait faire une grande banderole pour son armée. Il y a écrit dessus « Soon Wukong, grand saint céleste ». Quand cette nouvelle arrive aux oreilles du Dieu du ciel, il trouve que c'est quand même un peu trop. Et il décide quand même d'envoyer l'armée céleste. Le commandant en chef est le dieu Li Qing, qui est le dieu avec la pagode dans la main. Et ils se rendent tous sur la montagne des fleurs et des fruits. Et ils entourent la montagne et le combat commence. Ils envoient un valeureux guerrier pour se battre avec Soon. Le guerrier, aussi valeureux qu'il soit, n'arrive pas à lui tenir tête. Alors, il faut lui envoyer quelqu'un de plus fort encore. Et on lui envoie le troisième fils du dieu du ciel, le dieu Nocha. Le dieu Nocha est un excellent combattant. Ils se battent pendant toute une journée. Le dieu Nocha se transforme en un géant noir et rouge. Et Soon, il trouve ça fantastique. Il s'arrache un cheveu. Et il se transforme en géant noir et rouge lui aussi. Et voilà les deux géants noir et rouge qui se battent. 30 passes d'armes n'arrivent pas à décider de l'issue du combat. Le soir tombe et Soon, il en a un peu assez. Alors, il s'arrache un cheveu et il se transforme en un deuxième Soon. Alors, il laisse le deuxième se battre avec le prince Nocha et lui, il va derrière. Il prend sa sonde, sa barre de fer et lui donne un énorme coup sur le bras. Nocha crie de douleur et s'effondre. Soon a gagné la bataille. Et l'armée céleste rentre au ciel, comme ça, bredouille. Ils sont arrivés à rien. Et là, ils réunissent à nouveau le conseil. Et presque tout le monde est absolument persuadé qu'il faut en finir avec ce singe, mais vraiment de façon radicale. Et de nouveau, l'étoile du soir se lève et dit « Il a usurpé le titre de grand saint céleste. Donnons-lui le titre de grand saint céleste. Faisons-le revenir dans le ciel. Donnons-lui une bonne place. Ne lui donnons pas de charge. Ça, c'est peut-être un peu exagéré. Mais donnons-lui une place. Il sera tellement flatté. Les choses s'arrangeront. Et encore une fois, le Dieu du ciel est d'accord. Et c'est, de nouveau, l'étoile du soir qui va chercher Sun, qui, de nouveau, arrive au ciel extrêmement fier. Et il s'installe. On lui a même construit un palais. Il s'installe. Il est oisif. Et vraiment, les bonnes manières, il n'en a pas plus qu'avant. C'est tout juste s'il salue les dieux. Il y en a deux ou trois auxquels il donne un salut. Les autres, il les tutoie, il les traite vraiment d'égal à égal. Et à un moment donné, il y a un vieux sage qui va voir le Dieu du ciel et qui lui dit « Je crains beaucoup pour notre avenir. Moi, je trouve que c'est dangereux de les laisser oisifs. Il faut lui donner une charge. » Alors, il décide effectivement que ce serait mieux. Et il lui donne une charge. Il lui donne la charge de s'occuper des jardins de pêche de la reine mère de l'Ouest. Sun est très content et va immédiatement sur les lieux. Il demande au gardien de lui montrer, qu'on lui montre ce jardin. C'est un jardin magnifique. C'est un jardin de 3600 pêchers. Avec une première rangée de pêchers, avec des toutes petites pêches, si on les mange, on est éternellement en bonne santé. La deuxième rangée, il y a 1200 pêchers, avec des pêches plus grosses. Et là, si on les mange, on reste éternellement jeune. Et la dernière rangée, il y en a aussi 1200, c'est des grosses pêches striées. Et si on mange ces pêches-là, on devient immortel. Vous pensez que ça plaît à Sun Wukong, ça? Il va tous les jours dans son jardin. Il s'occupe très très bien de ses pêchers. Il s'arrange pour que les gardiens ne soient pas là, il les envoie ailleurs. Et il commence par derrière. Et il mange les pêches, et il mange les pêches, et il mange les pêches. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le moment du festin des pêchers approche. La reine mère de l'Ouest organise le festin des pêches. Et à ce festin sont conviés tous les dieux du ciel. Elle envoie 7 fées avec des grandes corbeilles pour cueillir les pêches. Et quand les 7 fées arrivent, les gardiens leur disent « Écoutez, il faut d'abord que vous demandiez l'autorisation au gardien en chef. Il ne se trouve pas ici, nous ne savons pas où il est en ce moment. Elle le cherche partout, elle ne le trouve pas. » Alors, elles décident quand même de passer à la cueillette parce qu'elles ont reçu des ordres de la reine mère. Il faut bien qu'elles apportent ces pêches pour le festin. Elles cueillent les pêches sur la première rangée. Il y en a encore. Sur la deuxième rangée, il n'y a plus grand-chose. Mais sur la dernière, elle trouve une pêche vermoulue. Alors elle l'accueille. Elle descend de la branche, elle prenne la pêche, puis elle laisse monter la branche. Et puis la branche, elle monte comme ça un peu rapidement. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que sur la branche, il y a Sun Wukong qui s'est transformé en ver de pêcher. Et quand la branche monte comme ça rapidement, ça le réveille. Et ça l'énerve. Alors il est là, tout de suite, en position de combat avec sa sonde et sa barre de fer. Et puis ils lui disent, mais non, grand saint céleste, nous sommes venus pour la cueillette des pêches parce que la reine mère nous a envoyés pour le festin, vous savez bien. Ah, le festin des pêches. Est-ce que je suis invitée au festin des pêches? Nous n'en savons rien, nous ne pensons que non. Comment? De nouveau, une fureur qui le prend. Alors, une formule magique qu'il dit rapidement fait que les 7 fées ne peuvent plus bouger et lui s'en va dans la direction du palais de la reine mère. Sur le chemin, il rencontre le dieu aux pieds nus. Il lui demande où il va. « Mais je vais au festin des pêches, » dit le dieu aux pieds nus. « Ah, mais il y a un contre-ordre, » dit Sun Wukong. « On nous a dit qu'il fallait d'abord aller dans la halle de clarté pour apprendre les rites. »« Très bien, » dit le dieu aux pieds nus, et il s'en retourne. Alors, très vite, il se transforme en dieu aux pieds nus et il va dans le palais de la reine mère et il trouve le festin préparé. C'est absolument magnifique. Il y a des tables avec des victuailles. C'est tellement beau. Il en reste la bouche ouverte. Puis il fait le tour de tout ça et il trouve dans une arrière-salle les tonneaux remplis du nectar des dieux. Alors il se met à boire, il se met à manger. Il en boit tellement qu'il ne peut plus se tenir debout. Et c'est à quatre pattes qu'il sort de là. Il ne sait plus très bien où il est. Il tombe dans un jardin. Puis au bout d'un moment, il se remet un peu. Il est un peu moins ivre. Il regarde autour de lui. Et il voit qu'il est dans le jardin de Lao Tse. Lao Tse est absent. Il est en train de discuter avec le dieu de la lumière. Il est parti avec tous ses serviteurs. Alors il fait le tour de la maison. Et dans une petite cellule, il trouve des calebasses remplies de pilules de vie. Parce que Lao Tse, il fabrique des pilules de vie. Alors il prend les calebasses, il les vide et il mange tout, 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 tout. Ah là, il n'en peut plus. Il a un peu honte. Il se dit, oh, je crois que j'ai un peu exagéré là. Alors il se rend invisible et il retourne chez lui. Il pense que c'est mieux de retourner chez lui. Mais au ciel, on se rend compte de tout ça. Il y a les fées qui finalement sont délivrées, qui viennent raconter ce qu'elles ont vu. Il y a les gardiens du jardin qui racontent ce qu'ils savent. Les serviteurs du palais où habitait Sun Wukong viennent dire qu'il a disparu. La reine-mère vient se plaindre. Lao Tse vient se plaindre. Vraiment, tout le monde est mécontent. Et là, maintenant, je pense pas que l'étoile du soir arriverait à se faire entendre. On décide d'envoyer vraiment toute l'armée céleste, avec tous les dieux de la guerre, les dieux du tonnerre, les dieux des éclairs, tout le monde contre lui. Et ils s'en vont, et c'est de nouveau Li Qing qui a le commandement en chef. Ils entourent complètement l'île des fleurs et des fruits. Et au matin, le combat s'engage. Il est dur, le combat. Sun arrive à avoir le dessus, mais il voit qu'autour de lui, les rangs s'éclaircissent. Beaucoup de ses fidèles ont été faits prisonniers. Alors il arrache un cheveu. Il le transforme en des dizaines et des centaines de Sun qui se battent aussi vaillamment que lui, et il gagne, encore une fois. Mais ce n'est qu'une bataille qui est gagnée. Il rentre dans sa grotte, et les autres aussi y rentrent dans leur camp et y réfléchissent. Au ciel, il y a Gundin, qui était venue pour le festin des pêches. Et elle, quand elle apprend la première défaite, elle se rend chez le dieu du ciel, et elle lui dit, « Ô Dieu du ciel, j'ai un très vaillant combattant à te proposer. C'est ton propre petit-fils, Yang Erlang. » Le Dieu du ciel accepte. Et voilà qu'un nouveau combattant arrive. Lui, il est de taille, parce qu'il s'est soumis tous les esprits des animaux. Il s'est soumis les esprits des elfes. Il a beaucoup d'alliés. Alors, il discute de la procédure d'attaque. Il discute tactique avec Li Qing et il lui explique qu'il doit enlever tous les filets qu'il avait tendus pour essayer de laisser le singe s'échapper, pour essayer qu'il ne s'échappe pas plutôt. Et il lui dit, parce que je pense que nous allons avoir une bataille de métamorphose. Et le lendemain matin, Sun sort de sa grotte et il voit devant lui Yang Erlang. Il dit, « Qui es-tu, toi, qui oses venir te battre avec moi ?»« Je suis Yang Erlang, le petit-fils du dieu du ciel, » lui répond l'autre. « Ah oui, je me rappelle. Il y a la fille du dieu du ciel qui a rencontré un monsieur Yang, et puis je suppose que tu en es le résultat. » Il devient fou de rage, Yang Erlang. Il se précipite sur lui avec sa lance à trois dents. Et le combat s'engage. 300 passes d'armes. Et ils ne sont pas encore fatigués. Mais le combat n'a toujours pas été décidé. Ils sont tout le temps là, les deux. Du côté de Yang Erlang, il y a les esprits des animaux. Du côté du singe, il y a tous les autres singes. Mais quand même, Sun, au bout d'un moment, commence à s'ennuyer de toujours répéter les mêmes gestes. Alors, il se transforme en un petit moineau et il s'envole. Quand Yang Erlang voit ça, il se transforme en un épervier. Il fonce sur le petit moineau. Alors, le petit moineau devient un cormoran. Et il s'en va, à tire-d'aile. C'est un oiseau plus grand. Et puis, Yang Erlang se transforme en grue. Et il part pour attaquer le cormoran. Quand le cormoran se voit un petit peu trop en danger, Il entre dans une vallée, il se laisse glisser. Au-dessus d'un petit lac, il devient un poisson. Jiangurlang l'a perdu de vue. Il se dit, il a disparu au-dessus de ce lac, il a dû se transformer en poisson. Je vais voir. Et il redevient un épervier et il se met à voler sur l'étang. Et il voit un poisson qui fait une volte-face un peu trop rapide. Ah, ça doit être lui. Et il se précipite pour le prendre. Mais à ce moment-là, le poisson est déjà assez près du rivage et il se transforme en un serpent qui se perd dans les herbes. Alors Jiangurlang devient un aigle et il va prendre le serpent dans ses serres. Mais Sun trouve que c'est trop dangereux. Alors il redevient un petit oiseau et il s'envole de nouveau. Oh, j'en ai assez, dit Jiangurlang de ces métamorphoses. Il redevient Jiangurlang, il prend son arc et ses flèches et il tire le petit oiseau. Alors le petit oiseau se laisse tomber dans la forêt. Il devient un petit temple. Il se dit, ah, je vais bien l'avoir. Un petit temple. Il transforme sa bouche dans la porte d'entrée, ses yeux, c'est devenu les fenêtres, et sa langue, ça devient la statue au fond du temple. Jiangurlang se promène dans la forêt et cherche Sun Wukong. Impossible à trouver. Puis il voit le petit temple. Ah, ce petit temple, je ne l'avais pas encore vu. Il est trop bête, ce singe. J'y crois quand même pas que je vais entrer là-dedans. Je vais d'abord tout casser et je vais commencer par les fenêtres. Sun y prend peur et cette fois-ci, il devient invisible. Il disparaît. Jiangurlang ne sait vraiment plus où le trouver. Alors il retourne chez Li Qing et lui dit, prends ton miroir magique, il faut que je le retrouve. Vous savez que dans certains miroirs magiques, on peut trouver les choses qui sont invisibles. Et vous savez où il le retrouve? Dans le temple de Jiangurlang, assis sur son trône. Ah, la fureur de Jiangurlang. Il part comme un diable. Il entre dans son temple et puis les serviteurs du temple ne comprennent rien parce qu'ils l'ont vu déjà passer une fois il y a à peine 2 minutes. Et il se précipite sur Sun et il l'attaque à l'intérieur du temple. Et de nouveau, le combat commence. Et petit à petit, ils sortent du temple et devant le temple, ils se battent de nouveau et des passes d'armes qui n'en finissent pas. Au ciel, il y a Gunying qui discute avec Lao Tse. Et au bout d'un moment, ils se disent, allons voir ce qui se passe, allons voir si le combat a trouvé une issue. Et ils regardent par la porte du ciel et ils voient qu'il n'en est rien, qu'ils sont toujours en train de se battre. Et Gunying dit, il faut que nous aidions Jiangurlang. Moi, je vais enfermer ce singe dans mon vase de porcelaine. Ne faites pas ça, dit Lao Tse. Un coup de sonde et il va vous le briser. Non, j'ai mieux que ça. J'ai un anneau de diamant qui peut encercler n'importe qui. Alors, il jette l'anneau et l'anneau frappe Sun à la tempe. Ça le prend de surprise, il ne s'y attendait pas. Il tombe à la renverse. Il veut se relever parce qu'il est rapide. Mais déjà, le chien de Jiangurlang l'a attrapé au mollet et le tient. Alors tout le monde se précipite sur lui. On lui met des chaînes et surtout, on lui passe un crochet à travers l'omoplate pour qu'il ne puisse plus se métamorphoser. Et on le traîne au ciel devant le tribunal et on décide de sa mise à mort, évidemment. Alors, sur la place publique, arrivent les bourreaux. Mais rien à faire. Ni le fer, ni le feu, ni le tonnerre, ni les éclairs n'arrivent au bout de ce singe. Il y a Lao Tse qui est là, qui dit tout d'un coup, mais c'est normal. Il a bu tout le nectar, il a mangé toutes les pêches, il a mangé toutes les pilules. Comment voulez-vous qu'on arrive à le tuer? Il faut d'abord sortir tout ça de lui. Venez, on va le mettre dans mon four, là où je fabrique mes pilules de vie. Et on va bien lui extraire tout cet élixir de vie, et puis après, on en fera notre affaire. Et vite, il l'enfourne dans le four de Lao Tse. Mais autour du four de Lao Tse sont enterrés les 7 signes des forces de la nature. Alors, vite, il se met sous le signe du vent. Et le feu ne peut rien lui faire. Il y a juste la fumée qui lui gratte un peu les yeux. C'est désagréable parce qu'il doit y rester plusieurs semaines. Et au bout de 7 semaines... Lao Tse ouvre la porte de son four et qu'elle n'est pas la surprise de tout le monde quand il y a un Sun Wukong plus furieux que jamais qui sort de là. Il a déjà sa barre de fer dans la main et il casse tout sur son passage, mais vraiment tout. Et il va en direction du palais du dieu du ciel. Il arrive devant la porte et c'est tout juste si le garde qui a un fouet d'acier arrive à le tenir à distance. Il y a tout le monde qui est massé autour de lui, toute la population céleste, et plus personne ne sait quoi faire. Alors le Dieu du ciel dit, vite, il faut appeler Bouddha, c'est le seul qui peut nous aider. Alors ils appellent Bouddha. Il y a Bouddha qui vient. Et puis qui dit, déposez les armes d'abord, je veux parler avec lui. Alors évidemment, Sun, comme à son habitude, dit, qui es-tu toi, qui ose parler avec moi? Je suis Bouddha Shakyamuni, j'ai entendu parler de toi et je suis venu te voir. Dis-moi ce que tu veux. Je veux le trône du Dieu du ciel, je ne vois pas pourquoi ce vieillard reste là-dessus. Je suis le plus fort, je connais des secrets, je connais des formules magiques, je sais me métamorphoser. Qu'est-ce qu'il a à faire sur ce trône? C'est ma place, qu'il s'en aille. Alors Bouddha lui dit, animal, tu n'es qu'un animal qui a acquis un peu de sagesse. Est-ce que tu sais qu'il a des siècles de vertu derrière lui, le Dieu du ciel? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire, mis à part te métamorphoser? Je sais faire des bons célestes, qui m'amènent plus haut que les nuages. Eh bien, je te propose quelque chose. Regarde ma main. Tu vas venir dans ma main. Et si, d'un seul bond, tu arrives à sortir de ma main, eh bien oui, je demanderai au Dieu du ciel de te céder sa place. Alors, le singe, il se cache un peu parce qu'il rit. Il se dit, mais il est fou. Il a vu sa main, il a vu mes pieds. Il dit, oui, je suis d'accord. Et il saute dans la main de Bouddha, qui est comme une petite feuille de lotus. Et il saute, et il saute, et il saute, et il monte dans les nuages. Et tout d'un coup, il voit 5 colonnes rougeâtres devant lui. Ça y est, je suis arrivé au bout du monde. Il n'y a personne qui est encore jamais venu là. Je suis le plus fort, c'est fantastique. Je vais retourner, je vais être le dieu du ciel. Je vais laisser un signe. Alors il s'arrache un cheveu et il le transforme en un pinceau. Il se fait de l'encre aussi et il écrit Sun Wukong, grand saint céleste sur une des colonnes. Et puis ça lui plaît tellement cet endroit, il se promène encore un moment, puis il a besoin de faire pipi, alors il pisse contre une des colonnes. Puis après, il décide de redescendre. Puis le voilà qui se retrouve en bas. Et puis il dit à Bouddha, « Alors, qu'est-ce que tu attends pour lui demander de me céder sa place ?» Et Bouddha lui dit, « Singe mal appris, viens voir ce que tu as fait. Tu as pissé dans ma main. C'est encore tout mouillé. Et viens voir ce que tu as écrit là. » Il a compris tout de suite ce nouveau coup. Il essaie de faire semblant d'avoir pas compris. Il veut voir de plus près parce qu'il veut essayer de se sauver encore. Mais Bouddha met la main sur lui. Il le fait sortir du ciel par la petite porte. Puis il l'emmène en bas. Et puis sur lui, il entasse une montagne, des pierres, de la terre, tout ça. Et il le lie par un sortilège à une pierre. Et Sun Wukong reste là pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un jour, il comprenne. Et là, on le délivre. Et on le donne comme compagnon au moine du Yangtze Kiang, qui va chercher les écritures saintes à l'ouest. Mais Gun Ying, c'est elle qui l'a délivré, a donné au moine un anneau d'or. Il lui a dit de le poser sur la tête du singe. Et l'anneau d'or a immédiatement disparu dans la tête du singe. Et de temps en temps, Sun, ça le reprend, ses rêves, son ambition, son envie d'immortalité. Alors, le moine, il serre un peu sur l'anneau. Et Sun devient très calme et très sage.
Dziękujemy Zdzisławowi i Republice za nowe, czyli stare sytuacje. I proszę Państwa, parę komunikatów z życia polonijnego. Otóż 2 listopada o 20.30 w sali Grand Casino odbędzie się występ Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcją Kazimierza Korda. Następnie w niedzielę, następnego dnia, 3 listopada o godzinie 9 rano w kościele świętej Teresy na Champel jest jak zwykle msza polska. po czym odbędzie się odczyt z okazji 67. rocznicy odzyskania niepodległości przez naród polski. Program: pierwsze, zagajenie i powitanie gości, drugie, przemówienie okolicznościowe, trzecie, odśpiewanie hymnu narodowego oraz czwarte, lampka wina. Wszyscy są serdecznie zaproszeni. I w końcu wieczorem o godzinie 8 w Instytucie Jacques Dalcros, 44 Rue de la Terrassière, jest to dzielnica Lviv, koło gmachu Forum 2000, odbędzie się wieczór autorski Wojciecha Młynarskiego. Parę słów wyjaśnień. Otóż Wojciech Młynarski, który obchodzi w tym roku 20-lecie swojej kariery estradowej i autorskiej, nie będzie śpiewał, będzie deklamował swoje wiersze, swoje teksty. Wiele z nich znajduje się właściwie w obiegu alternatywnym, nie będąca dopuszczona przez cenzurę. Także to spotkanie zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Będzie to niejako retrospekcja ostatnich 20 lat twórczości Wojciecha Młynarskiego. Wojciech Młynarski ostatnio występował w Londynie, podobno bardzo udany były to wieczory, a w Szwajcarii czekają go spotkania w Lucernie, w Zurichu, w Bernie i na koniec w Bazylei. Tych z Państwa, którzy wolą Młynarskiego, piosenkarza od Młynarskiego, autora, zapraszamy do wysłuchania jego jednego z wielu przebojów, mianowicie piosenki o Żorżyku, gitarzyście basowym.
Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal. Śmieszna sprawa, jakby nie było. Więc proszę pana, to był bal, szkolny bal. No i tam się to właśnie zdarzyło. Piszę do pana, bo mnie wstyd, normalnie wstyd, że przyszedłem tam wtedy na podryw. A dziś wiem dobrze, że już nikt, normalnie nikt, nie ma takich drugich oczu modrych jak ta mała z 11 B. Strasznie mi głupio, strasznie mi źle. Śmieszna historia, nie? Popadłem w jakiś nerwowy stan. Co robić, powiedz mi pan? Tak chciałbym ją za rękę wziąć, normalnie wziąć i powiedzieć krótko i czule, że to po prostu był mój błąd, normalnie błąd, że przepraszam ją i w ogóle. Ja wysłałem do niej parę takich pocztówek dźwiękowych, nagrałem tam własnym tekstem. Przebacz mnie mała, na nic. Panu też chciałem to wszystko, znaczy, nagrać, ale pomyślałem, odczytany redaktor zrozumie, bo w ogóle to pan wie, dlaczego ja do pana piszę. Piszę do pana, bo mi żal, normalnie żal, a przede mną widoki marne. Pamiętam tylko tamten bal, szkolny bal i jej oczy niebiesko-czarne. Piszę do pana, bo mi wstyd, normalnie wstyd, że jej w kok wbiłem dwie rurki z kremem. Niby taki żart miał być, tak. Za rękę mnie nie złapał nikt, normalnie nikt. Chodzę smutny, jęcząc jak ten Niemen, taki solista. Nawet alpagi nie chce mnie się. Śmieszna historia, nie. Popadłem w jakiś nerwowy trans, jestem już całkiem bez szans. Więc teraz chyba tylko pan, normalnie pan, powie mi, jak ten kłopot mieć z głowy, jak zlikwidować cały ten fatalny stan. Pyta Żorżyk, gitarzysta basowy. Ta, 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 ta. Fararam.
Proszę Państwa, prosimy słuchać audycji 30 minut po polsku na falach Radia Zond 4 razy w ciągu doby. Pierwszy raz w poniedziałek o 7:30 wieczorem, a potem co 6 godzin, 7:30 w nocy, 7:30 rano i 7:30 po południu we wtorek. Oczywiście są to, Państwo już pewno zdążyliście poznać Radio Zond, godziny zbliżone. Możemy być troszkę wcześniej, troszkę później. No a dla dzieci dzisiaj, ponieważ były niegrzeczne, piosenka będzie wyciszona. Dobranoc.
Moja mama każe mi się bawić z rysiem, jakby mama spróbowała z rysiem sama. Ja się nie chcę bawić z rysiem, ani larwą, ani misiem, a w ogóle mamo z rysiem nudzi mi się. Ja chcę do wodzia, chcę do wodzia, no bo w modzie są najbardziej teraz wodzie. Choć coś stoi na przeszkodzie, ja się będę bawić w wodzie, no bo z wodziem żyję w zgodzie.
Il y a très longtemps, vivait en Russie une bergère. Cette bergère était très belle, mais surtout, elle était très futée. Elle était extrêmement maligne, elle était connue partout pour cela. On venait de loin pour lui demander son avis et elle avait déjà aidé beaucoup de gens. À cette époque, le tsar, qui était le roi de la Russie, n'avait pas de descendants, il n'avait pas de fils. Et il voulait trouver un héritier qui soit digne de son trône. Et il s'est dit qu'il allait poser une énigme et qu'il prendrait comme fils celui qui saurait la résoudre. Alors il a fait savoir ça par les crieurs dans toutes les parties de son royaume. Et il a rappelé que dans la capitale, tout au centre de la ville, il y avait une grande place où les gens se rassemblaient le jour du marché. Et sur cette place, il y avait une grande pierre qui était là depuis des temps immémoriaux. On ne savait pas du tout pourquoi elle était là, mais elle était là. Et l'énigme qu'il fallait résoudre était la suivante. Le tsar disait, « Celui qui arrive à tuer la pierre qui se trouve au centre de la place, je le nommerai mon fils et il sera mon héritier. » Alors, très rapidement, sont venus tous les guerriers du pays, tous les hommes forts. Et ils ont regardé la pierre et ils ont commencé à taper dessus. Ils ont tapé dessus avec des épées, ils ont tapé dessus avec leurs lances. Oh, puis au bout d'un moment, ils ont été chercher des marteaux. Et puis au bout d'un moment, quand on a vu que les guerriers n'y arrivaient pas, il y a les paysans qui sont venus avec leurs massues et rien à faire. Il y a même eu les sages et les gens très intelligents qui sont venus regarder cette pierre, à se demander comment on pourrait bien la tuer. Les bruits vont assez lentement, mais finalement, même à cette époque, c'est arrivé jusqu'au village de la bergère que le tsar avait posé cette énigme. Et quand elle a su ça, la bergère a pris des habits d'homme et s'est déguisée en paysan. Et elle est partie pour la capitale. Alors, elle n'est pas du tout allée tout de suite sur la place où il y avait la pierre. Elle est allée au palais, elle s'est fait annoncer. Elle a dit, « Je suis un paysan et je suis venue pour prendre la vie de cette pierre. Je le ferai demain matin à 10 heures. » Évidemment, que la ville entière est arrivée le lendemain matin pour regarder cet exploit. Et le tsar aussi est venu avec toute sa cour et tous ses notables, dans leurs beaux atours. Et ils se sont tous mis autour de la pierre. Et voilà que la bergère, déguisée en paysan, arrive. Alors, elle se tourne vers le tsar, elle s'incline très très bas. Elle lui dit « Ô tsar bien-aimé, père de tous les peuples, je vais tuer cette pierre. Mais j'aimerais qu'auparavant, tu lui prêtes vie et que tu fasses circuler en elle le sang pour qu'il jaillisse quand je la frapperai. Je la tuerai, je t'assure, dès que tu l'auras fait, et si je n'y arrive pas, tu peux prendre ma tête. » Alors le tsar l'a regardé et il a dit « Voilà enfin quelqu'un qui a résolu mon énigme. Tu seras mon fils. Mais tu sais, c'est quand même une charge importante que d'être le tsar de ce pays. Et je veux vraiment pouvoir avoir confiance en toi. C'est pourquoi je vais te poser d'abord une deuxième énigme. Tu vas retourner chez toi et dans 3 jours, tu reviendras. Et il faut que tout le monde vienne à ta rencontre et il faut qu'il ne te rencontre pas. Et qu'il faut que tu aies une monture et il faut que tu ne la montes pas. Et je veux que tu me donnes un cadeau et que tu ne me le donnes pas. » Très bien, a dit la bergère déguisée en paysan, et elle est retournée chez elle tranquillement. En arrivant dans son village, elle a demandé à ses amis paysans de trouver 4 lièvres les plus gras qu'ils pouvaient trouver, et aussi les 2 plus belles colombes. Et puis après, elle est allée garder ses moutons tranquillement pendant 2 jours. Le matin du 3e jour, elle est partie du village et elle avait dit qu'il fallait mettre les lièvres dans un grand sac. Et on a aussi emmené les 2 colombes. Et il y a évidemment tout le village qui est venu avec. Et quand on s'approchait de la capitale, elle a envoyé des gens annoncer son arrivée. Ils ont fait grand bruit et évidemment que tous les habitants de la ville se sont précipités pour la rencontrer. Et elle a donné un signal. Et ils ont laissé courir les lièvres. Et quand les gens ont vu courir ces gros lièvres, ils se sont dit « Ah, voilà notre civet pour demain !» Ils se sont tous mis à courir après le lièvre. Ils ne sont plus occupés d'elle. Et elle, en partant, elle avait pris une chèvre. Elle avait une chèvre dans son troupeau. Et elle montait la chèvre. Elle remontait ses jambes comme ça, puis elle montait la chèvre, comme on monte un cheval. Et quand le tsar est venu à sa rencontre, elle se mettait debout. Et elle marchait avec la chèvre entre ses jambes. Puis dans ses mains, elle tenait les colombes, dans une cage. Elle s'est approchée du tsar, elle s'est de nouveau inclinée, et elle a ouvert la petite porte de la cage, et elle a donné un petit coup sur la cage, et les colombes sont parties. Et elle a dit, voilà, tsar bien-aimé, je suis venue, tout le monde est venu à ma rencontre, mais personne ne m'a rencontrée. J'avais une monture, mais je ne la montais pas. Et je t'ai donné un cadeau, et je ne te l'ai pas donné. « Ah, dit le tsar, tu es mon fils, je vais te donner mon royaume. » Alors, elle a enlevé son bonnet, parce qu'elle avait mis un bonnet qu'elle avait tiré bien bas sur sa figure. Puis on a vu qu'elle avait des magnifiques cheveux. Puis il a dit, « Je ne suis pas un garçon, je suis une fille. » Alors il a dit, « Eh bien, tu seras ma femme. » Et à cette époque-là, je vous assure que la Russie a eu une tsarine extrêmement futée et très très juste. D'où s'échappent des rayons. Tellement ils sont brillants, ses yeux. Et ces rayons balayent tout autour de lui. Tant et si... savoir d'où ça venait. Alors ils sont allés voir et quand ils sont revenus, ils lui ont dit « Eh bien, il y a une île, elle s'appelle l'île des fleurs et des fruits et là, il y a un singe qui est né, un singe de pierre, et c'est lui qui a ses yeux tellement brillants. » Le singe de pierre s'est fait très vite beaucoup d'amis parmi tous les singes qui vivaient sur cette île. qui était donc très grand et très fort, donc il les impressionnait beaucoup. Ils jouaient beaucoup ensemble. Et un jour, ils se sont trouvés devant une cascade. Une très grande cascade qui tombait avec beaucoup de force. Et ils s'amusaient ensemble. Et ils se disaient, qui c'est qui ose passer à travers la cascade? Qui c'est qui ose? On pourrait dire que celui qui ose, il serait notre roi. Alors le singe de pierre a dit, moi j'y vais. Et il a passé à travers la cascade. Il a passé à travers le rideau d'eau. Et il a trouvé de l'autre côté ce qu'on ne pouvait pas voir. Il a trouvé un pont de pierre qui menait vers une grotte. Et quand on entrait dans cette grotte, on trouvait qu'en fait c'était un magnifique palais. Alors il est revenu raconter ça aux autres. Mais les autres d'abord, ils ne l'ont même pas laissé raconter. Ils étaient tellement impressionnés qu'ils l'ont tout de suite acclamé et qu'ils ont dit « Tu es notre roi ». Alors il leur a appris à tous à passer le rideau de pierre, le rideau d'eau. Et c'est devenu leur maison de l'autre côté. Ils étaient de plus en plus nombreux. Ils allaient faire la cueillette. Et ils faisaient souvent des festins et ils s'enivraient aussi. Ils buvaient du vin de pêche. Ils aimaient beaucoup ça. Et un jour, qu'ils avaient un peu bu, le singe de pierre est tout d'un coup devenu terriblement mélancolique. Il a laissé tomber sa tête comme ça et on voyait presque plus ses yeux brillants. Puis il disait, à quoi ça sert tout ça? Ça va finir. Un jour, il n'y aura plus rien. Il va falloir passer la porte de la mort. Et il y avait un très, très vieux singe dans l'assemblée qui lui a dit, « Singe de pierre, notre roi, toi qui es notre père à tous, voilà que ton cœur s'est ouvert à la vérité. Il y a trois seuls genres d'êtres qui échappent à la mort. Il y a les Bouddhas, il y a les bienheureux, et il y a les dieux. » Alors le singe de pierre a voulu savoir où il se trouvait, parce que ça l'intéressait beaucoup. Et le vieux sage a dit, « Oh, on les trouve dans le monde des hommes, dans des grottes, dans les montagnes, dans des endroits très retirés. » Et immédiatement, le singe de pierre a décidé d'aller à la recherche de ses bienheureux et de ses saints pour qu'ils lui apprennent à être immortel. Parce que maintenant, il n'y a qu'une seule chose qu'il voulait dans la vie, c'était ça. Alors le lendemain, il s'est construit un radeau et il est parti sur son radeau tout seul. Il est parti dans la direction de l'Asie. Et là, quand il est arrivé sur le rivage, il a vu un pêcheur. Il s'est approché du pêcheur, il l'a assommé d'un seul bon coup de poing, il lui a arraché ses habits, il les a mis, et il est parti dans la ville la plus proche. Et là, il a appris à vivre comme les hommes. Il a appris à parler comme les hommes, à manger comme les hommes, à faire toutes les choses que les hommes font. Il a passé là beaucoup d'années. Mais au bout d'un moment, il s'est dit, ça ne me sert à rien de rester ici, parce que tous ces gens, il n'y a que deux choses qui les intéressent. L'argent et les honneurs. Il n'y a personne ici qui s'intéresse à l'immortalité. Il faut que j'aille voir ailleurs. Alors il est reparti au bord de la mer et il s'est reconstruit un autre radeau et il a pris la route de l'Est. Quand il est arrivé de nouveau sur un rivage, il a cherché. Il a cherché pendant très longtemps. Et un jour, il a entendu quelqu'un qui chantait. Il a tendu l'oreille et il a entendu que dans ce chant, on parlait de bienheureux. Alors, il s'est précipité, il a cherché qui chantait ce chant, et il a trouvé un vieux bûcheron. Alors, il s'est approché de lui, il a dit, « Oh, saint homme, apprends-moi à être immortel. » Puis le bûcheron l'a regardé, et puis il a dit, « Mais, t'as vu à qui tu parles? Je suis un pauvre bûcheron, moi. Je suis pas un saint. » Mais alors, qu'est-ce que tu chantais, là? Tu as raison, je chantais effectivement quelque chose qui avait trait à la vie des saints et à l'immortalité. Si tu veux, je t'amène auprès de celui qui m'a appris ça. C'est un vieux sage qui vit là en haut dans la montagne. Et il a 30 ou 40 disciples. On l'appelle celui qui sait. Évidemment, que le singe n'a pas eu une seconde d'hésitation. Et il s'est fait montrer le chemin. Il est arrivé devant un petit temple qui était entouré d'arbres. Et tout autour, il y avait aussi des grottes. Et ça avait l'air d'être des lieux d'habitation. Mais tout avait l'air fermé. Alors, pour se passer le temps, il est monté sur un pin et il a commencé à manger des pommes de pin. Et bien qu'il ait appris en principe de bonnes manières, il faisait un bruit tellement épouvantable qu'on l'a entendu depuis le dedans. Puis tout d'un coup, quelqu'un est venu ouvrir la porte et a dit « Mais quel est l'animal qui fait tout ce bruit ?» Alors il est vite descendu de son arbre, il a un petit peu remis ses habits en place et il a expliqué ce qu'il voulait. Et puis le disciple qui était venu lui ouvrir la porte secouait la tête, il a dit « Je n'aurais jamais pensé, mais le maître m'a dit d'aller voir qui était devant la porte, qu'il y avait un chercheur de vérité devant la porte. » Et il avait raison. Alors le singe s'est présenté devant le maître. Et là, il lui a expliqué ce qu'il voulait. Et le maître lui a dit « Comment t'appelles-tu ? » « Je n'ai pas de nom, je suis le singe de pierre. » « Eh bien, je vais te donner un nom. À partir de maintenant, tu vas t'appeler Sun Wukong. » Et il l'a accepté comme disciple. D'abord, ce sont plutôt les autres disciples qui ont été ses maîtres. Ils lui ont appris à balayer, à planter des choses, à récolter, à faire toutes ces tâches qu'il faut faire dans un petit couvent. Un jour, qu'il écoutait le maître, parce qu'il l'écoutait vraiment de toutes ses oreilles, il a eu une illumination et il a compris. Il s'est mis à sauter de joie et à hurler. Et le maître lui a dit « Mais enfin, singe sauvage, tu vas arrêter de faire le fou comme ça, qu'est-ce qui te prend ?» Et il lui explique qu'il a tout compris. Alors, le maître, il n'arrive pas à y croire. Il continue à faire le fou là, et il s'approche de lui et il lui donne 3 coups sur la tête avec son bâton. Et puis, le maître se retire dans sa cellule. Et Sun se dit « Ah, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il voulait dire. 3 coups sur la tête, ça veut dire qu'à la 3e heure de cette nuit, je dois aller le retrouver. » Et puis, il est allé dans sa cellule. Ça veut dire qu'il faut que j'aille le voir en secret. Alors, il a attendu la 3e heure de la nuit. Et puis, à la 3e heure de la nuit, il est allé trouver le maître. Le maître dormait dans sa cellule. Il avait la tête tournée contre le mur. Puis tout d'un coup, Sun a entendu le maître dire « Difficile, difficile est la voie de la sagesse. Si on ne trouve pas l'homme qu'il faut, on parle dans le vide. » Puis il a dit « Maître, je suis là pour vous écouter. » Alors le maître s'est réveillé et puis lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?»« Mais maître, j'ai compris ce que vous m'avez dit, j'ai compris que je devais venir à la 3e heure et que vous alliez me dire des secrets. » Et le maître s'est dit, on dirait vraiment qu'il a compris quelque chose. Et il lui apprend une formule magique. Il lui apprend le sens secret de cette formule. Il lui apprend chaque mot. Et Sun a tellement envie de la connaître qu'il l'apprend très très vite. Et ensuite, il retourne dormir avec les autres disciples. Il fait mine de rien. Et à partir de ce moment-là, il essaye de méditer, il essaye d'être plus sage. Un jour que le maître se promène, il s'arrête devant le singe et il lui dit « Sun, je vois que tu fais bien des efforts, mais est-ce que tu sais que tout homme sur le chemin de la vérité trouve 3 obstacles extrêmement difficiles ?» Alors Sun le regarde avec un air inquiet, puis il dit « Mais comment est-ce que je peux faire pour les éviter, ces obstacles ? Comment est-ce que je peux faire ?» Et le maître, alors, lui apprend une autre formule magique qui va lui permettre de se métamorphoser 72 fois. Alors, en secret, Sun pratique les métamorphoses. Il devient rapidement assez expert. Et un autre jour, que le maître se promène parmi ses disciples, il s'arrête devant Sun et lui dit « Sun, est-ce que tu sais voler ?»«
Ah oui, maître, je sais voler. » Alors, il fait des efforts, il arrive à monter quelques mètres, puis il accroche un nuage et puis se met dessus, puis il marche quelques pas. Puis ensuite, il redescend, il est très fier de lui. Le maître dit « C'est pas voler, ça, c'est ramper. » Je vais t'apprendre, moi, une formule magique qui te permettra de faire des bonds aussi hauts que les nuages, des cabrioles célestes. » Et il lui apprend cette formule magique. Et très vite, Sun maîtrise très bien cette technique. Et à partir de ce moment-là, il ne connaît plus de limites dans l'espace. Il faut dire que les autres disciples sont assez intrigués par ce singe qui apprend les voies de la sagesse. Ils le taquinent tout le temps. Ils essaient de le provoquer. Et un jour, ils lui disent « Hé, c'est vrai que tu t'es transformé en tout ce que tu veux ?» Et lui, d'abord, il essaie de parler, de faire en semblant de ne pas les entendre, mais ils insistent, puis finalement, il dit « Mais oui, je sais faire ça. Alors, transforme-toi en un pain. » D'abord, il ne veut pas. Puis ils insistent. Et puis, il se laisse convaincre. Et il se transforme en un pain. Et là, ils rient tous. Ils sont par terre en train de se rouler de rire. Ils trouvent ça tellement comique. Évidemment qu'ils font beaucoup de bruit et que le maître, alerté, vient demander ce qui se passe. Et quand il apprend ce qui s'est passé, il dit « Singe, tu n'arriveras jamais à dompter ta nature. Tu es trop sauvage. » Alors Soud, il s'excuse beaucoup. Il dit « Oh, je ne t'en veux pas. Mais il faut que tu partes, il faut que tu retournes chez toi. Et je suis assez inquiet. Alors je veux que à personne tu ne dises que tu as été mon disciple. » Alors Sun fait ses adieux et s'en va. Maintenant qu'il sait faire des cabrioles célestes, il est rentré chez lui en un rien de temps. Et il retrouve son peuple de singes qui l'attendait. Ça faisait des dizaines d'années qu'il était parti, mais ils avaient continué à l'attendre. Et ils l'accueillent et ils font un grand festin. Au bout d'un moment, Sun commence à s'inquiéter de ce qui s'est passé pendant son absence. Et il apprend que le démon du chaos, est venu du nord et a volé des petits singes. Ah, ça le met dans une très très grande colère. Il se dit « Je vais immédiatement me venger. » Alors, il saute sur un nuage et le voilà parti au nord. Il arrive devant la grotte du démon du chaos. Il y a là quelques diablotins qui jouent. Il en attrape un par l'oreille et puis lui dit d'aller chercher son maître. Et plus vite que ça, il lui dit. Ils ont tous très très peur. Et ils vont chercher le démon du chaos qui sort de sa grotte. C'est un immense démon, tout noir, avec une énorme armure. Il est si grand qu'il ne voit même pas Sun. Il dit « Qui c'est qui ose venir me provoquer ici ?» Mais Sun n'attend pas et commence à le cribler de coups. Alors il se rend compte qu'il y a là un singe qui lui paraît petit en tout cas, qui essaie de se bagarrer avec lui. Alors il essaie de se défendre un peu et puis il se moque de lui. Alors Sun, il arrache un de ses cheveux, il le croque, il le recrache et il le transforme en des dizaines et des dizaines de petits singes qui, comme lui, se mettent à taper sur le démon du chaos. Il y en a quand même beaucoup et finalement, il tombe à la renverse. Alors, Sun attrape son grand couteau, le démon avait un grand couteau, et il lui coupe la tête comme un melon. Et ensuite, il récupère ses petits singes. Et il incendie encore la grotte. Puis là, il est très content, il rentre chez lui. Et ça l'habille en appétit. Alors, il décide de créer une armée avec ses singes. Alors, il les fait s'exercer avec des lances de bambou et des sabres en bois. Au bout d'un moment, ils sont effectivement assez bien, en assez bonne condition. Et il se dit... Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait prendre ombrage de mon armée. Et de fait, s'il y a vraiment une bataille, Avec leurs armes, ils n'arriveront pas bien loin. Il faut que je leur trouve des meilleures armes. Et il a autour de lui 4 babouins qui sont devenus ses conseillers. Alors il en discute avec eux. Et il lui raconte que, assez loin de là où il se trouve, il y a un royaume qui s'appelle le royaume d'Olay, qui est rempli de guerriers réputés qui ont des armes excellentes. Ah, mais je vais aller là-bas, dit Soun. Et quelques cabrioles célestes, et le voilà devant la capitale du royaume d'Olay. Devant les murs de la ville, il se dit « Je vois pas pourquoi j'irai acheter ces armes, je vais trouver autre chose. » Alors il souffle avec une formule magique sur la terre et il provoque une tempête de sable tellement effrayante que tous les habitants de la ville s'en vont en hurlant de peur. Alors lui, il entre dans la ville, il s'arrache un cheveu, il le mâchonne, il le recrache, il le transforme en état de petits singes qui vont tous avec lui à l'arsenal, ramassent toutes les armes. Et sur la voie des nuages, ils rentrent chez eux. Alors maintenant, ils ont des armes, des vraies armes, des vraies lances et des vrais sabres et des vraies épées. Et c'est vraiment en train de devenir une armée assez redoutable. Mais Sun Wukong n'est pas content. Il regarde le coutelas qu'il a volé au démon du chaos, il trouve que c'est pas une arme digne de lui. Et il décide d'en discuter de nouveau avec ses 4 babouins, ses conseillers. Et là, de nouveau, il lui donne une idée. Il lui raconte que s'il arrive à aller dans la mer, il y a dans le château de cristal du roi des dragons, peut-être un endroit où il peut trouver une arme qui lui convienne. Alors, évidemment, c'est une formule magique qui lui permet d'entrer dans la mer et d'arriver devant ce palais de cristal. Il est gardé par un triton. Et le triton l'arrête et lui demande ce qu'il veut. Et il dit qu'il veut voir le roi des dragons. Le roi des dragons, bizarrement, un roi en général, quand il reçoit quelqu'un, reste assis, le fait entrer, va à sa rencontre. Il inspire la peur, ce Sun Wukong. Et à peine qu'il a le roi des dragons devant lui, il lui dit « Je suis venu pour trouver une arme. Il faut que tu me trouves une arme. Je n'ai pas d'arme adéquate. Trouve-moi une. » Il fait peur au roi des dragons. Alors, il cherche une arme. Et Sun Wukong la soulève et dit « Pas assez lourd. Me convient pas. » Il la jette. Ils en cherchent une deuxième. Elle lui plaît pas non plus. Ils en cherchent une troisième qui pèse 720 livres. Ils trouvent qu'elle est encore trop légère. Alors là, le roi des dragons commence à s'arracher les cheveux, s'il en a. Et il sait plus quoi faire. Alors arrivent sa femme et sa fille. Ils le prennent à part. Ils disent, écoute, il faut que tu trouves une solution. Nous, on a très peur de ce singe. Mais j'ai donné tout ce que j'avais de mieux. Mais écoute, dit la femme, il y a la sonde du grand Yu au fond de la mer. Ces derniers temps, elle est devenue rougeâtre. Ça veut peut-être dire qu'il doit se passer quelque chose. Mais non, on ne peut pas lui donner la sonde du grand Yu. C'est avec cette sonde qu'il a mesuré la profondeur des mers quand il les a créées. Ce n'est pas possible. Et montre-la lui, on verra bien après. Ce n'est pas notre responsabilité ce qui se passe après. Alors il l'emmène pour lui montrer la sonde. C'est une immense barre de métal qui est cerclée d'or aux deux bouts. Arsoun, il regarde ça du plaid. Il essaie de la soulever, il dit « C'est un peu trop lourd. » Et immédiatement, la sonde devient plus petite. Ah, il essaie encore. « C'est encore trop lourd. » Elle devient plus petite encore. Et plus petite, et plus petite. Et elle peut devenir toute petite, si petite qu'il peut la mettre dans son oreille. Ah, et elle grandit aussi après, quand il veut. C'est fantastique, ça lui plaît vraiment, ça. Alors il la refait grandir et il la brandit comme ça dans l'eau. Et ça fait des vagues, et ça fait une tempête, et tout le monde a peur. Alors il retourne au château, au palais de cristal. Et il dit au roi des dragons qui pense qu'enfin il va partir, « J'ai trouvé l'arme qu'il me faut.
Mais je n'ai pas d'armure. Un guerrier doit avoir une armure. Trouve-moi une armure. Mais je n'ai pas d'armure. Alors il joue avec sa sonde, là. Alors le roi des dragons comprend. Et puis, il lui trouve une armure. Il va chercher ses frères. Et puis, les frères lui disent aussi, il faut absolument lui trouver quelque chose, mais tu trouves ce que tu as de mieux. Après, on se débrouillera. On ira le dénoncer. Ah, mais après, quand il sera plus là. Pendant qu'il est là, il est trop dangereux. Et il lui trouve une magnifique armure d'or, qui est en plus magique. Et là, enfin, il est satisfait. Et il retourne chez lui. Et là, maintenant, son armée est parfaite. Il a 72 000 singes qui sont armés. Ils vivent tous dans 47 grottes. Si vous voulez faire une pause, c'est encore très très long.
Non. Mais moi, j'ai un peu chaud.
Ouais, mais j'aime pas. Mis à part s'exercer à la guerre, ce qu'ils aiment faire aussi, dans ce peuple de singes, c'est des festins. Et ils aiment beaucoup s'enivrer aussi. Et un jour, qu'ils ont beaucoup bu, Sun s'endort et il a un rêve. Il rêve que deux hommes viennent le prendre, le lit et l'emmènent. Et il l'emmène très loin, jusqu'à un endroit, une ville. Et à l'entrée de cette ville, il y a une pancarte. Sur cette pancarte, c'est écrit « Les Enfers ». Il le pose là. Et Sun, à ce moment-là, il se réveille, il secoue. Il dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Alors il se libère de ses liens. Il sort sa sonde toute petite de l'oreille, il la fait grandir. Et il réduit en bouillie les deux hommes qui ont voulu l'enlever. Il entre dans la ville. Il a compris qu'il était dans le royaume des morts. Il entre dans la ville. Il fait un tapage épouvantable. Il dit, où sont les dix dieux des morts? Je veux voir les dix dieux des morts, qu'ils viennent. Les dix dieux arrivent tout petits. Il leur dit, qui êtes-vous? Nommez-vous. Et ils sont obligés de se nommer les uns après les autres. Et puis il leur dit, allez chercher le livre de vie. Ils vont chercher le livre de vie. Et lui, il l'ouvre. Et il cherche la page où il est dedans. Et puis il trouve effectivement une page où c'est écrit « Sun Wukong, singe de pierre, né de la montagne des fleurs et des fruits. Il vivra 967 ans et mourra sans maladie. » Alors il prend un pinceau et il passe tout ça au noir. Et il dit « J'ai acquis l'immortalité, je n'ai plus rien à voir avec vous. » Et puis il trace tous les noms de tous les singes. Et puis il leur jette le livre aux pieds. Et il s'en va. Et quand il sort de la ville, il trébuche sur quelque chose et il tombe par terre. Et ça le réveille. Et alors il appelle les quatre babouins qui sont devenus ses quatre généraux en chef et il leur dit « J'ai rêvé que je suis allé aux enfers et j'ai enlevé tous nos noms du livre. On n'a plus rien à voir avec ça. Nous sommes immortels. » Mais au ciel, les plaintes arrivent. Il y a la plainte du roi des dragons qui arrive et de ses deux frères. Il y a la plainte des dix dieux de la mort qui arrive aussi. Et le dieu du ciel, quand il entend ça, il dit il faut faire quelque chose. Il réunit son conseil. Et ils veulent évidemment tous le condamner. Mais tout d'un coup, il y a l'étoile du soir qui se lève et qui dit « Dieu du ciel, j'aimerais proposer une autre solution. Ce singe est très ambitieux et très sauvage. Faisons-le venir au ciel, donnons-lui une charge, ça le flattera tellement qu'il va devenir tout petit et tout sage. »